quoi le plan ? Une effervescence d'avenir, d'égalité et de justice secoue la France et le monde. Jusqu'à présent, elle n'a pas su enclencher le frein d'urgence sur la voie des catastrophes planétaires et des dominations quotidiennes. Nous avons fait l'expérience de la force immense que nos luttes devront accumuler ensemble pour ébranler l'ordre existant. C'est quoi le plan ? Un podcast de la revue Contretemps propose de débattre de toutes nos stratégies pour bâtir un autre monde. Parfois, par chance, nous avons vu le monde d'après. Dans C'est quoi le plan ? Nous accueillons toutes les voix de celles et ceux qui en cherchent les chemins. Tous les guides de survie, les programmes, toutes les transitions, les planifications, tous les plans d'attaque nourrissent le débat stratégique. D'une façon ou d'une autre, les empires d'aujourd'hui seront les cendres de demain. Ils pourraient bien entraîner l'humanité dans leur chute. Alors, quel autre horizon nous reste-t-il ? Que faire pour l'atteindre ? Nous vous offrons une nouvelle réponse à chaque épisode de C'est quoi le plan ?
Bonjour à toutes et tous, je suis donc Fanny Gallo, membre de la rédaction de Contretemps, et dans cet épisode de C'est quoi le plan, nous recevons donc Florence Poznanski et Simon Contamarx. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Florence, tu réalises depuis quelques temps déjà une conférence gesticulée intitulée « Je t'aime camarade » dans laquelle tu reviens de façon incarnée sur le militantisme. Simon, tu viens de publier chez Payot avec Hélène Balazar un ouvrage intitulé « Burnout militant, comment s'engager sans se cramer ». L'idée que nous avions, à contre-temps, en vous réunissant aujourd'hui, était donc d'aborder le militantisme, ses difficultés et ses joies, des questions qui nous paraissent de plus en plus abordées ces temps-ci et qui donnent lieu à de nombreuses publications dans un contexte particulier, marqué par la montée de l'extrême droite et où les municipales qui s'annoncent, bref, l'urgence. Ces questions sont susceptibles de nous conduire à nous impliquer toujours davantage, ce qui peut, entre autres, produire de la culpabilité, l'impression qu'on n'en fera jamais assez, nous amener à mettre la pression sur les autres sans forcément prendre soin, faire attention aux unes et aux autres, et même à nous-mêmes, et finir in fine par nous dégoûter, nous énerver. À vos manières, l'une et l'autre, aborder ces différentes dimensions sur lesquelles nous allons donc revenir aujourd'hui. Florence, peux-tu d'abord revenir un petit peu sur la généalogie de ta conférence gesticulée ?
Eh ben, merci de me donner l'occasion d'en parler. Je dirais que cette conférence gesticulée, elle est née de la nécessité de mettre des mots sur quelque chose dont je ne pouvais pas parler, un peu une sorte de tabou, ce qui était un peu toutes les violences. Donc moi, j'ai une trajectoire militante dans différents espaces depuis une dizaine d'années. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que j'ai rencontré des comportements de violence auxquels j'imaginais pas du tout retrouver dans des espaces qui défendent l'égalité, la justice, un autre monde, etc. Et je me suis confrontée à l'impossibilité de trouver des informations à ce sujet-là. Et donc, cette conférence gesticulée est née de la nécessité d'en parler pour sensibiliser les militants et les militantes autour et surtout pour prendre ce sujet à bras le corps. Parce que souvent, j'ai pensé qu'en en parlant, je pouvais affaiblir la lutte, et donc c'est ce qui m'a fait peur de ne pas en parler. Et en fait, grâce à cette conférence gesticulée, j'ai compris que seulement en discutant et en créant des espaces, un peu comme tu le fais aujourd'hui d'ailleurs aussi, pour questionner ces mécanismes-là, on va réussir à les dépasser et à construire des luttes plus fortes, quoi. Et c'est ça qu'on veut, justement.
Bah oui, tout à fait. Et donc Simon, peux-tu revenir de ton côté sur l'objectif du livre que vous avez publié avec Hélène Balazar ?
Oui, alors moi aussi, merci pour la question, je vais revenir un petit peu sur la généalogie aussi. Du coup, le livre, à la base, ça vient d'une rencontre. J'étais allé à une soirée, c'était l'anniversaire d'une association écologiste qui s'appelle Les Amis de la Terre. Et en discutant avec des militants et des militantes, on m'explique qu'il y a une association assez importante de l'écologie parisienne qui vient d'exploser. Tous ses membres sont partis en burn-out. Et comme Florence, en fait, je regrette, on a besoin de luttes plus fortes et il faut pas que, dans l'idéal, il faut pas que les militantes et les militants s'épuisent dans leur action. Alors, à partir de là, ça a lancé une réflexion, c'est comment faire pour éviter que les gens se crament dans leur collectif. Et du coup, ça a commencé par donner un article dans la revue Mouvement. Et après, il y a eu un intérêt important sur cette question du burn-out militant, mais qui fait écho aussi à des débats qu'il y a justement dans les sphères militantes, notamment dans les milieux féministes et écologistes qui sont emparés de ce sujet. Et c'est pourquoi, après, avec Hélène Balazar, on en a fait un livre. Du coup, l'objectif du livre, c'est vraiment de partager la culture militante, comment on prend soin de nos luttes, comment on prend soin de nous-mêmes, comment on prend soin de nos camarades. Donc, du coup, dans le livre, on explore quels sont les problèmes auxquels on fait face.
Alors, pour enchaîner directement, Simon, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la définition de ce que tu entends par burn-out militant, épuisement militant ? Comment ça se traduit en fait au quotidien chez les militanteux ?
Alors, la notion de burn-out, elle n'est pas nouvelle. Hein, elle vient du monde du travail, d'abord. Il y a des psychologues américains, notamment dans les années 70, notamment Herbert Freudenberger, qui a commencé à définir ce que c'était que le burn-out. Et il nous dit qu'il y a trois symptômes. Le premier symptôme, c'est un épuisement physique et émotionnel. Hein. En gros, concrètement, les personnes, elles se sentent vidées, usées, sans aucun moyen pour se ressourcer. Enfin, clairement, moi, l'image que je prends, c'est quand on fait un burn-out, en fait, on est au fond de son lit et on ne peut plus bouger. Et ça ne dure pas un jour, hein, ça dure plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, même plusieurs années. Il y a un deuxième symptôme, selon ce psychologue, c'est qu'il y a une déshumanisation des relations interpersonnelles. Bah, pareil, pour résumer, les autres, c'est tous des cons et ils ne servent à rien. Et enfin, troisième symptôme, c'est une baisse, alors parfois totale, hein, du sens au travail. Donc en gros, c'est des gens qui se disent « ce que je fais, ça ne sert à rien ». Voilà, donc ça, c'est un concept donc, qu'on peut traduire par épuisement professionnel, qui vient des États-Unis. Et en France, ça a mis du temps à ce qu'on parle de ce sujet, notamment dans le monde du travail. Et finalement, parce que bah, c'est tes travaux aussi, hein, Fanny, il parle de ça. C'est-à-dire que dans les années 70, puis même avant, quand voilà, des ouvrières entières explosaient, on disait qu'elles étaient stressées, que c'était des folles, ou, enfin, bref, que c'était des bonnes femmes qui faisaient leur crise de nerfs. Et en fait, c'était un problème de bonnes femmes. Et ça a mis beaucoup de temps à ce qu'on se dise bah, que c'était l'organisation du travail qui produisait ces crises de nerfs, ce stress, en fait, finalement, cet épuisement professionnel. Et il y a un livre qui est très bien, qui revient aussi sur cette généalogie, c'est celui de Rémy Ponge, qui s'appelle « Se tenir debout ». Et il montre tout le temps hein, que ça a pris dans le monde du travail pour considérer le burn-out professionnel comme une maladie professionnelle hein, qui venait de l'organisation du travail. Et finalement, hein, le game, il est joué depuis France Télécom, malheureusement. Sauf qu'à France Télécom, il y a eu du harcèlement systématique des salariés. Hein, l'entreprise a voulu faire partir les salariés. Et ça y est, ça a été jugé, c'était reconnu. On a reconnu la responsabilité des managers, des gens qui étaient aux responsabilités. Et depuis les années 2000, en fait, on se dit, oui, il y a bien un lien entre l'épuisement professionnel, les crises de nerfs que peuvent avoir certains professionnels et l'organisation du travail. Voilà. Donc ça, c'est pour le burn-out au sens professionnel, hein, qui est aujourd'hui reconnu, même si ce n'est pas officiellement reconnu comme une maladie professionnelle. En tout cas, la causalité, elle est reconnue et acceptée par tout le monde, même si évidemment le patronat a toujours un peu du mal à le reconnaître. Hein. Ils ont toujours à dire ah bah, c'est des gens qui sont un peu faibles, etc. Dans les années 90 aux États-Unis, on a des psychologues qui ont commencé à parler de burn-out militant. Hein, et elles se sont dit bah, finalement, l'analyse qu'on fait sur le monde professionnel, on peut la faire aussi au monde militant. Voilà. Et du coup, c'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui, c'est de dire que l'organisation du travail militant peut être étudiée avec les outils qu'on a en sociologie du travail. Voilà. Et du coup, on parle par exemple de risques psychosociaux, et elles reviennent là-dessus, c'est Gomez et Marshall, et elles nous disent, bah oui, donc comme les salariés, les militants aussi, dans leur organisation du travail, sont exposés à aux 6 facteurs de risques psychosociaux. Donc pour les rappeler, c'est l'intensité et le temps de travail, hein, le fait de travailler trop, les exigences émotionnelles, hein, d'être confronté à des situations difficiles, à des publics fragiles et tout, bah, ça épuise. Le manque d'autonomie, je pense qu'on en reparlera. Donc dans le travail, ça va être bah, toutes les 10 secondes, on nous dit quoi faire, mais pareil dans le monde militant, parfois ouais, on nous doit obéir au doigt et à l'œil, et puis on n'a aucune autonomie, bah, du coup ça peut faire péter les plombs. Il y a encore donc, 3 autres risques, donc les rapports sociaux dégradés, hein, c'est-à-dire quand on s'engueule et que c'est pas pris en charge, et qu'on n'a pas de soutien de la hiérarchie, ou des gens qui ont des responsabilités, et bah, du coup on dit que c'est un facteur de risque. Enfin, il y a les conflits de valeurs, hein, si on milite pour quelque chose, et puis que finalement, au quotidien, on fait autre chose, bah pareil, il y a une perte de sens, et puis ça affecte notre psychisme. Et enfin, il y a l'insécurité de la situation de travail. Donc voilà, donc ça, si on enchaîne les CDD dans le monde professionnel, c'est très clair, et ben ça pèse sur la santé. Ben, dans le monde militant, c'est pareil. Hein. En fait, si on a du mal à joindre les deux bouts, ben, évidemment, dans le monde militant, ça va peser, ça va peser aussi sur la santé des militants. Voilà, donc du coup, il y a cette proposition qui a été faite donc, par ces psychologues américaines dans les années 90 d'utiliser la grille des risques psychosociaux qu'on utilise sur le monde du travail, sur le monde militant. Et il se trouve qu'en France, on a mis un peu de temps à faire ce travail-là. Et on a commencé à le faire à partir de 2019, quand il y a une militante féministe qui s'appelle Anaïs Bourdet, qui tenait un Tumblr féministe et qui s'occupait notamment d'aider des femmes victimes de violences conjugales. Donc Anaïs Bourdet, elle a lancé, à un moment, elle a pété les plombs, elle n'en pouvait plus, parce qu'en fait, elle recevait énormément de témoignages, d'appels à l'aide, et en fait, elle avait du mal à y faire face. Et du coup, elle l'a partagé, elle a lancé un hashtag « Paye ton burn-out militant ». Et ça a lancé le débat, notamment dans les milieux féministes. Il y a plein de féministes connues qui ont commencé à s'en emparer, et on a vu émerger plein de podcasts sur le sujet de la santé militante. Il y a Rokhaya Diallo qu'on a parlé, mais aussi Caroline Dehas et beaucoup d'autres. Il y a aussi le collectif contre le cyberharcèlement, féministe contre le cyberharcèlement, qui a parlé de ce sujet, hein, des difficultés de se faire agresser et de tout ce que ça pouvait avoir comme effet sur la santé. Par exemple, ce collectif, ils ont fait le choix, face à la pression auxquelles ils étaient exposés, de s'arrêter, de faire une pause pour pouvoir se ressourcer. À partir de 2019, dans les milieux féministes, on commence à avoir cette réflexion sur la santé militante. Et le deuxième secteur qui va s'en emparer, ça va être le secteur de l'écologie. Pourquoi ? Parce que c'est aussi des univers, enfin des mondes militants qui sont exposés à beaucoup d'agressions de la part de l'extérieur. Les féministes, comme les écologistes, en fait, globalement, c'est assez dramatique, mais se font agresser, emmerder, aussi bien par l'État et la police que par l'extrême droite. Et notamment depuis Sainte-Soline, donc les événements, il y a eu une manif contre une bassine qui a été organisée il y a 2 ans à Sainte-Soline, et donc il y a des militants qui allaient faire une petite manifestation. Enfin, une bassine, c'est un trou, genre dans un champ pour collecter de l'eau, quoi. Et il y a des militants qui y sont allés et qui ont fait cette manif, qui pensaient bon enfant, et finalement, ils se sont retrouvés à vivre des véritables scènes de guerre, quoi. Hein, ils se sont fait canarder, grenades assourdissantes, lacrymo. Puis, au final, il y a plusieurs militants qui ont été gravement blessés, et énormément de militants qui ont été traumatisés. Hein. Et dans les années qui vont suivre, donc depuis 2 ans, on voit qu'il y a des guides sur comment on prend soin de nous et de nos luttes. Il y a des espaces aussi qui sont créés pour parler, pour prendre en charge les traumas, pour débriefer, etc. Bon, voilà. Donc c'est toute une culture militante qui est en train de se construire et qui est hyper intéressante, dont on parle dans le livre. Et dans le livre aussi, on rappelle qu'évidemment, mais ça je pense qu'on en parlera après parce que ça fait longtemps que je parle là, mais en fait elle est assez ancienne aussi, cette culture militante.
Oui, merci beaucoup. Alors, ça fait écho, effectivement. Enfin, ce qui est intéressant dans ce que tu soulignes, hein, c'est la place du mouvement féministe dans ce type de réflexion autour des pratiques. Hein. Et là, du coup, c'est l'historienne qui parle, mais moi, j'ai travaillé sur cette question donc du militantisme dans les années 1970, et notamment dans la deuxième moitié des années 1970, puisque dans la dynamique de mai-juin 68, il y avait cette idée que l'histoire nous meurt la nuque, que la révolution allait arriver, qu'il fallait toutes et tous qu'on y aille à fond, puisque c'était véritablement le moment de changer le monde. Dans le même temps, il y a ce mouvement féministe qui était en train de se construire, d'émerger, de se renforcer, de se massifier, qui mettait en avant l'idée selon laquelle le privé est politique. Et c'est de fait cet enjeu-là qui s'est croisé à des enjeux organisationnels dans des organisations d'extrême gauche, mais je vais y revenir, également syndicales, hein, dans la deuxième moitié des années 1970, puisque cette révolution n'arrivant pas, les militantes vieillissant, se disant qu'il fallait peut-être s'insérer professionnellement, et puis aussi d'ailleurs peut-être commençant subjectivement à se démoraliser, les organisations, plusieurs organisations ont été confrontées par exemple des suicides de militants, hein, qui se disaient que finalement ça n'avait servi à rien, ou que leurs espoirs, enfin un recul de l'espérance, des espérances révolutionnaires. Et c'est à ce moment-là, hein, dans cette crise du militantisme-là de la deuxième moitié des années 1970, que commencent à s'engager dans ces organisations des réflexions autour des pratiques militantes avec une impulsion très forte des militantes féministes en interne de ces organisations. Hein. Ça a donné lieu, par exemple, à un numéro de la revue Critique Communiste qui s'intitule « Militantisme et vie quotidienne » que vous pouvez retrouver sur le site donc, de Contretemps, puisque nous avons numérisé les archives, où il est précisément question de la mise en adéquation justement de nos pratiques militantes avec justement nos orientations, du fait de repenser cet engagement, cet ethos militant envisagé au masculin qui doit être disponible, qui doit ne faire que ça, et la manière de ne faire que ça, c'est bien souvent aussi de faire que, par exemple, s'occuper des enfants, faire les courses et le ménage, c'est la compagne qui s'en occupe, qui de fait se trouve empêchée dans son implication militante. Et donc ces questions commencent véritablement à être discutées au moment où la question des affects se pose aussi, hein, ce qu'on ressent quand on milite, et nos espoirs, nos désespoirs, nos joies, nos tristesses, nos déceptions, etc. etc. Et ces discussions, elles n'ont pas seulement lieu dans les organisations d'extrême-gauche, puisque moi j'ai beaucoup travaillé aussi sur le syndicalisme, mais au tournant des années 80, il y a par exemple des militants à la CFDT qui mettent en avant l'idée d'en finir avec un syndicalisme d'hommes et qui déplie précisément ce que c'est un syndicalisme d'hommes. C'est-à-dire, c'est pas seulement une disponibilité permanente, c'est aussi des manières d'intervenir, des manières de parler, la mise en avant très importante de la théorie, de ces personnes qui connaissent plein de choses. Et puis moi, je vais parler du concret, de mon expérience, mais ça, c'est pas politique. Alors qu'au contraire, justement, c'est évidemment au fondement de toute forme d'organisation qui cherche un tant soit peu à être connectée avec ce qui se passe dans la réalité quotidienne. En tous les cas, c'était simplement pour dire que voilà, ces questions-là, en fait, elles étaient déjà portées depuis... elles ont déjà été portées dans les années 1970 et c'est amusant de voir que... Enfin, c'est pas tout à fait amusant, c'est pas du tout anecdotique, c'est pas du tout... Ça s'explique très bien que, de fait, c'est porté, évidemment, par des militantes féministes dans un premier temps, hein, en lien avec ce mouvement social puissant, hein, qui était le mouvement féministe des années 1970. Alors justement, Florence, à ce sujet, donc, tu reviens beaucoup hein, dans ta conférence gesticulée, dont on ne va pas parler en détail, puisque j'invite toutes les auditrices à y aller dès que c'est possible. Mais tu le disais, hein, dès le départ, pour lancer sur la généalogie, en fait, ce qui t'avait frappé, c'était la reproduction de tout un tas de rapports de domination dans des organisations militantes. Hein, et du coup, cet enjeu de la mise en d'équation finalement entre nos orientations qui sont pour l'émancipation, qui visent à une société où on se sent bien, une société différente justement, où il n'y a plus de rapports sociaux de classe, de race, liés au genre, liés au validisme, etc. Et qui, sous la pression de l'urgence, sous la pression de « il faut », sous la pression de « voilà, on verra ça plus tard finalement, bien sûr, on est d'accord, mais on verra ça plus tard », se retrouve embarqué dans toutes sortes d'agissements sexistes et ou même de violence. Est-ce que tu peux revenir un petit peu à toutes ces questions-là hein, qui se sont posées et que tu abordes dans ta conférence?
C'est vrai que quand on y réfléchit et en vous écoutant, je pense qu'on se rend compte aussi comment, comme tu disais Simon, il y a eu un gros travail qui a été fait sur le monde du travail pour comprendre comment les mécanismes d'oppression du système capitaliste, pour le dire rapidement, nous impactent. Et en fait, on peut se dire, en y réfléchissant, que le monde militant a vraiment cherché à partir, faire tout ce qu'il pouvait pour ne pas être concerné, comme s'il y aurait une sorte de bulle magique qui ferait qu'à partir du moment où on rejoint une organisation militante, on se transformerait instantanément dans toutes les valeurs que l'organisation défend. Et je pense que c'est un rêve agréable à vivre, auquel beaucoup de personnes finalement pensent et ne se sont même pas posé la question de la difficulté. Et d'ailleurs, tu le dis par rapport aux luttes féministes, le nombre de camarades masculins que j'ai pu croiser dans les organisations militantes féministes et qui me disent bah oui, mais moi je suis féministe, c'est une évidence, et sans aucune question. Et effectivement, je pense que peut-être que dans le monde militant, il y a des barrières supplémentaires qui sont faites à la croyance très forte qu'il y a dans les valeurs qu'on défend, qui est normal, parce que en tant que militant, on est obligé de croire dans toutes ces valeurs-là. mais de la, peut-être aussi de la difficulté de faire la part des choses entre le monde auquel on aspire et le monde dont on est aussi un peu issu, qui est un monde qui est construit par ces oppressions systémiques, qui est un peu ce gros mot dans lequel on retrouve le sexisme, mais pas que, et on retrouve finalement toutes les discriminations, toutes les valeurs culturelles, tous les préjugés qui ont construit notre identité et la façon dont on construit nos sociétés. Et je pense qu'aujourd'hui, même s'il y a des gens qui ont vécu des expériences politiques extraordinaires, des personnes qui ont peut-être participé à des changements révolutionnaires ou qui ont de père ou de mère en fille vécu des histoires ouvrières incroyables, personne aujourd'hui ne peut se revendiquer exempt de ces mécanismes-là. Et je pense au contraire que c'est tout à fait délétère de ne pas le questionner. Et derrière tout ça, il y a beaucoup de mécanismes qui se mélangent, une forme de moralisme aussi très fort. Et d'ailleurs, je pense que quand tu parles de burn-out militant, moi, c'est un terme que j'ai du mal à employer parfois parce que je trouve que justement, il y a le bon burn-out qui est typiquement le burn-out parce que j'ai fait une action de violence policière et que je me suis pris des gaz lacrymo. Ça, c'est le bon épuisement. C'est-à-dire que c'est celui qu'on va valoriser en tant que militant parce que justement, on est militant qui a donné tout ce qu'il faut, qui a affronté la violence et qui, du coup, mérite à ce moment-là d'être soigné, reconnu, etc. Et puis, on va dire le mauvais burn-out qui est celui que tu subis en interne parce que tu t'es confronté à des conflits qui sont justement liés à tous ces trucs qui grattent. Ce sexisme permanent, cette autorité, ce racisme, ce validisme, enfin toute cette dimension extrêmement où toutes ces violences vont se reproduire et qui est beaucoup plus difficile à diffuser. Et ça, on va dire que c'est le mauvais burn-out, c'est le mauvais épuisement. Et pourtant, il est là et c'est celui dont on parle un petit peu moins et qui sont liés justement à tous ces mécanismes internes. Alors, il y a beaucoup de concepts qui sont déjà sortis de ça, ce concept de pureté militante. Alors, plus j'en parle, plus parfois j'ai du mal à le définir, mais je le trouve quand même intéressant parce qu'il y a cette idée que justement, au nom de toutes les valeurs qu'on va défendre en tant que militant pour laquelle on s'engage, pour lesquelles on se sacrifie, délibérément aussi, on passe énormément de temps, et d'ailleurs c'est quand même important de le dire, bravo, merci, c'est tellement super important d'être tous ces militants et militantes que nous sommes, mais néanmoins, au nom de ça, c'est ce qui va nous permettre de condamner d'autres personnes ou de ne pas se remettre en question sur d'autres choses parce que c'est trop compliqué. Et derrière ça, il y a un autre concept aussi qui a été pas mal théorisé par des Américains, mais cette fois-ci plutôt des Canadiens, dans ce bouquin qui a été pas mal discuté en France récemment depuis qu'il a été traduit, Joie militante, qui parle du concept de radicalisme rigide. Et en fait, justement, ils s'appliquent à décortiquer toutes les façons dont ce qui s'appelle l'empire affecte nos réalités et comment on peut le reconnaître. Et ça va d'ailleurs jusque... Et c'est là où on voit aussi l'héritage un peu chrétien ou religieux dans cette dimension sacrificielle, de plus permettre d'être de bonne humeur dans les luttes qu'on fait, parce qu'on est tellement fâché contre tout ce qui se passe, contre à la fois les camarades qui nous ennuient ou qui ne sont pas d'accord avec nous, et puis contre toutes les violences qui se passent autour. Et tout ça, c'est des mécanismes qu'on ne prend pas le temps de questionner. Et on peut se poser la question, effectivement, comme tu disais, de l'urgence. C'est une vraie question qu'on peut se demander, c'est-à-dire en quoi, est-ce qu'on pourra arriver à un idéal révolutionnaire ? Et là-dessus, les féministes ont été centrales là-dessus parce qu'elles ont bien expliqué aux organisations, qu'elles soient syndicales et politiques, que c'est pas par magie qu'on arrivera à l'égalité entre les hommes et les femmes après avoir fait la révolution et que la lutte contre le patriarcat, elle se fait en même temps que la lutte contre le capitalisme. Et c'est vrai que aujourd'hui, il n'y a pas que les féministes qui dénoncent ces mécanismes-là. Et d'ailleurs, ce n'est pas que des violences qui sont issues du patriarcat et sexistes. Mais je pense que la méthode qui a été appliquée... moi, je ne suis pas une chercheuse comme vous, j'ai observé ce qui s'est passé, disons, depuis les 10 dernières années. Et donc, la méthode qui a été appliquée pour justement dénoncer, visibiliser les comportements et réussir à ouvrir une brèche qui permet de faire une autocritique sur nos comportements respectifs, les comportements des hommes, les comportements des femmes qui ont aussi intégré le patriarcat et de comprendre comment tout ça se décline, c'est très précieux justement pour permettre d'ouvrir le spectre et de le questionner aussi de façon plus vaste en intégrant les violences, les oppressions systémiques de classe, liées à cette forme de moralisme, cette pureté aussi qui dirait que quand il y a un conflit, c'est forcément la faute de quelqu'un et c'est surtout pas la faute d'un collectif, alors que bah, s'il y a un conflit entre deux personnes, c'est quand même qu'un collectif, il a à un moment donné, par son silence aussi parfois, empêché que ce soit possible. Et du coup, tout ça, ça ouvre des brèches effectivement pour le questionner, mais c'est pas facile parce qu'il y a effectivement certaines organisations qui commencent petit à petit à créer des espaces de soins militants ou de... D'ailleurs, il y a plein de façons différentes de le questionner, mais c'est pas encore vraiment là, quoi. Et d'ailleurs, on se peut se poser la question que là, dans l'échéance électorale qui arrive, comment les organisations militantes vont se saisir de ça, alors que justement, elles repartent dans la course contre l'extrême droite, pour la défense du bien commun, des communs, des collectifs, etc. Donc, on verra.
Oui, merci. Alors, on commence à toucher du doigt et à rentrer vraiment dans le vif de même ce qu'on vit les unes et les autres au quotidien. Et là, du coup, tu commences aussi à... T'as commencé, Florence, à évoquer cette notion globalement de la culpabilité d'un certain point de vue et sur l'idée de ne pas remettre en question le cadre et du coup de se dire voilà, il y a un truc, un conflit interindividuel et du coup chacun, chacune finalement gère individuellement ces situations de conflit interindividuel. Moi, je sais que c'est quelque chose que je dis beaucoup en formation militante de différents ordres, c'est-à-dire dès qu'on ressent un problème, je sais que des psys pourraient dire une petite alarme, voilà, une inégalité dans la prise de parole. Prenons simplement, uniquement, juste ça. La question n'est pas individuelle. Je n'arrive pas à prendre la parole. Je suis stressée à l'idée de prendre la parole. J'ai le cœur qui bat la chamade parce que ça va être mon tour de parole. Et puis, in fine, voilà, seules deux femmes sur 18 interventions ont pris la parole. In fine, le problème là, c'est pas le fait que les femmes n'ont pas pris la parole, ou que les personnes racisées, ou que les personnes en situation de handicap, ou que les personnes voilà, qui sont dominées dans les rapports sociaux, dans l'ensemble de la société, n'ont pas pris la parole. Elles avaient qu'à. C'est bien le cadre qu'il faut repenser dans son ensemble qui a conduit finalement à ce déficit en termes de prise de parole. Et ça, c'est quelque chose que moi, je répète très souvent sur l'exemple de la prise de parole, qui est un exemple finalement relativement, entre guillemets, anecdotique, mais quand même très permanent, c'est peut-être moins grave que d'autres exemples, mais qui, à mon avis, permet de vraiment réfléchir collectivement à notre cadre, qu'est-ce qu'il permet de faire, en fait, et qu'est-ce qu'il ne permet pas de faire, et du coup, comment sortir de cet enjeu de la culpabilité individuelle. Parce que, bien sûr, in fine, dans ces cadres militants où deux femmes prennent la parole, les autres se disent « mince, j'aurais dû, je regarde mes pieds et je me sens nulle et j'ai honte et je culpabilise ».
Je me permets juste une petite boutade parce qu'en t'entendant, je me dis « c'est fou, toutes ces luttes militantes qui sont baignées de sociologie, où on interroge justement les mécanismes collectifs qui construisent les dominations sur les gens, au moins on n'est pas capable de l'appliquer dans nos militants, finalement c'est la même chose. Là, le problème, il n'est pas individuel, il est collectif. » Et donc je me dis ça montre encore la contradiction qu'il y a derrière. Et voilà, c'était juste cette boutade-là que je voulais dire en t'écoutant. Merci.
Et du coup, ça rejoint hein, cet enjeu de la culpabilité, rejoint aussi cette notion donc, de sacrifice que tu as évoqué Florence tout à l'heure et sur laquelle vous revenez beaucoup, Simon. Et voilà, qui a aussi été étudié d'ailleurs récemment dans un ouvrage magistral qui s'appelle donc Le Prophète Rouge, qui a été écrit donc par Julie Pagis, hein, qui revient donc sur un petit groupe maoïste hein, dans les années 1970 qui de fil en aiguille s'enferme hein, et s'isole progressivement dans une dynamique sectaire. Alors c'est très difficile de résumer tout l'enjeu de ce livre en quelques mots, mais simplement un des éléments qu'on peut retirer, il y a plein d'autres éléments à retirer autour de la notion de charisme, etc., etc. Mais c'est cet enjeu de cette culture du sacrifice, en fait, qui conduit ces militanteux à se trouver embringués dans cette histoire, à suivre ce chef, parce que, justement, c'est pour elles et eux une façon de mettre en cohérence leurs orientations et leurs pratiques quotidiennes. Et du coup, c'est aussi à discuter avec quelque chose qui commence aussi à être abordé dans la même dynamique que celle qu'on est en train d'évoquer là. Hein. C'est culture du sacrifice versus réflexion autour du bien-être militant. Est-ce que c'est pour le dire les gros mots, petit bourgeois? Est-ce que c'est justement décalé par rapport au projet de société que nous, on veut porter, que de se poser la question du bien-être, hein? Il y a eu là aussi plusieurs ouvrages récents de Camille Test, Politiser le bien-être, de Michael Fossel, Quartier Rouge, Le plaisir et la gauche. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette question, hein, Simon, que vous travaillez aussi dans votre livre?
Oui, alors... Oui, t'as dit beaucoup de choses. Alors, et juste avant d'y répondre, je voudrais insister sur un point qui est vraiment extrêmement important et que vous avez souligné toutes les deux. Et c'est ce qu'on défend avec Hélène donc, dans le livre. C'est que c'est vrai que souvent, les gens sont épuisés, ils sont renvoyés à leur individualité, ou même il y a une tendance des collectifs, dans le monde du travail, mais aussi d'un collectif militant, à psychologiser les choses. Hein, c'est-à-dire que si la personne a craqué, c'est parce qu'elle est fragile, elle est un peu faible. Donc oui, certes, on n'est pas tous égaux, hein, on n'a pas tous les mêmes capacités au moment de nos vies à affronter certaines souffrances, violences, ça c'est sûr. Sauf que ce qui est certain aussi, c'est que les solutions, elles sont collectives. C'est dans le collectif que se trouvent les solutions, et c'est au collectif de s'emparer de ce sujet-là pour prendre soin de ses membres. Alors, du coup, pour revenir sur la question de la culture du sacrifice, c'est vrai que dans le livre, on repère trois grands problèmes en fait, auxquels sont confrontés les collectifs militants. Et le premier problème, c'est cette culture du sacrifice. Le second, c'est l'impossibilité de prendre en charge cette question du soin, mais c'est ce que vous avez dit aussi, c'est qu'il y a toujours mieux à faire, hein, que de discuter de nos problèmes organisationnels et de prendre soin les uns des autres. Et après, le troisième grand problème, c'est qu'aussi on est confronté à l'apathie du politique, voire même parfois à la violence, hein, l'apathie, c'est-à-dire que voilà, il y a une crise écologique, il se passe honnêtement pas grand-chose, en tout cas c'est clairement pas suffisant. Sur la cause des femmes, c'est pareil, hein, c'est une grande cause nationale, mais il se passe rien, donc c'est l'apathie. Il se passe pas rien, mais disons que c'est quand même assez insuffisant. Et en plus, il y a cette question de la violence, hein, violence policière, violence de l'extrême droite, sur laquelle les collectifs aussi ont des choses à faire. Mais pour revenir sur cette question de cette culture du sacrifice, évidemment, c'est quelque chose qu'on a repéré, qu'on a souligné, puis on s'est dit comment les collectifs font pour l'affronter. Donc déjà, nous, ce qu'on dit, c'est que cette culture du sacrifice, en fait, elle flotte pas dans l'air. Hein. Elle n'est pas là comme ça. Elle nous est pas donnée. C'est pas notre culture judéo-chrétienne qui nous donne cette culture du sacrifice. Peut-être que ça joue un rôle, mais en tout cas, nous, on allait regarder dans les pratiques ce qui amenait à construire cette culture du sacrifice. Et clairement, ce qu'on voit, c'est qu'on a des collectifs qui malheureusement amènent leurs membres à faire des burn-out, qui ont souvent des objectifs inatteignables. Hein. Donc faire la révolution, sauver le climat, c'est évidemment des objectifs que je partage en plus personnellement. Mais en fait, ils sont clairement inatteignables. Donc si on se donne ces objectifs, en fait, on va se mettre dans une course effrénée, hein, et tout ce qu'on fera, ça sera jamais suffisant. Et du coup, on va devoir en faire plus, finalement, se sacrifier pour la cause. Et dans le livre... Justement, du coup, on fait un petit rappel sur ce sujet-là, c'est que, oui, il y a des grandes figures militantes. Hein. Pour moi, c'était Che Guevara, pour d'autres, ça va être Gandhi, pour d'autres, ça va être Rosa Parks. Mais ce qu'il faut jamais oublier, c'est que ces gens, hein, qui sont des personnes exemplaires et extrêmement inspirantes, elles n'étaient pas toutes seules. Et donc, pour l'expliquer, et du coup, il ne faut pas tomber dans ce travers, hein, en fait, il faut faire comme elle. Dans le sens où l'exemple de Rosa Parks, il est extrêmement parlant. Donc, Rosa Parks, pour rappeler, donc, c'était une militante afro-américaine du mouvement des droits civiques, qui, à Montgomery, dans les années 50, a refusé de céder sa place à une personne blanche dans le bus, hein, parce que dans les bus, à l'époque, les places étaient réservées pour... Certaines places étaient réservées pour les blancs. Et elle a refusé de se lever, et c'est aussi pour ça qu'on s'en souvient, parce que après, ça a été le point de départ d'un grand boycott des transports en commun de la ville. Et au bout de 450 jours, il me semble, cette lutte a été victorieuse, c'est-à-dire que la ségrégation s'est arrêtée, voilà, et du coup il y a des figures qui ont émergé comme Martin Luther King, voilà, et c'était donc ce grand mouvement des droits civiques américains qui est extrêmement inspirant. Sauf que ce qu'on rappelle dans le livre, c'est que avant Rosa Parks, il y a eu d'autres personnes qui ont refusé de se lever, notamment une jeune femme qui s'appelait Claudette Colvin, qui était mineure au moment des faits et qui, elle aussi, est allée en prison parce qu'elle avait refusé de céder sa place. Sauf que elle n'a pas été soutenue. Enfin, elle a été soutenue par le mouvement des droits civiques, hein, qui a payé son avocat et qui l'a soutenue. Sauf que ça s'est arrêté là. Pourquoi ? Bah, parce que le mouvement des droits civiques était un mouvement catholique et que Claudette Colvin, était mineure, célibataire et enceinte. Ça faisait mauvais genre. Et du coup, le mouvement des droits civiques s'est dit, bon, quand même. C'est quelque chose de symbolique, refuser de se lever, et en fait ça pourrait être le point de départ d'une mobilisation. Et en fait Rosa Parks, c'est pas une femme toute seule qui s'est dit qu'il faut, enfin que je ne céderai pas ma place à un blanc. Non, c'est Rosa Parks, c'était une militante du mouvement des droits civiques. C'était un collectif qui a organisé cette mobilisation. Rosa Parks, elle n'était pas seule, c'est pas une figure sacrificielle. C'était des mouvements de centaines de militants, hein, qui se sont mobilisés. Donc, ce qu'on retient de cette histoire, c'est que, en gros, l'engagement, hein, même si c'est des figures qui émergent, c'est toujours collectif. Donc du coup, ça sert à rien de se sacrifier. En fait, il faut faire plutôt collectif et travailler tous ensemble. Voilà, donc ça, c'est une des leçons du mouvement des droits civiques. Mais en fait, il y en a d'autres. Et notamment, quand on regarde du côté des pratiques de community organizing, hein, que Hélène Balazar a bien étudié et dont elle parle dans le livre. Et donc, elle a travaillé, Hélène, sur une association qui s'appelle London Citizen. Et elle a étudié comment, en gros, donc London Citizen, donc c'est une association de quartier qui mobilise les habitants pour améliorer leur cadre de vie et puis limiter les inégalités. Et ce qu'elle raconte, Hélène, très bien, c'est que dans ces mouvements, ils ont conceptualisé l'idée de donner des objectifs atteignables, qui ne sont pas forcément changer le monde, et qu'à chaque fois qu'un de ces objectifs atteignables est atteint, il faut le fêter. Donc du coup, ça peut être aussi bien, on a un nouvel adhérent qui arrive, et du coup, on l'accueille, puis on fête son arrivée, parce qu'en fait, c'est super chouette que notre collectif s'élargissent, ça nos ressources. Et après, elle va plus loin, on raconte l'histoire de lutte. Une dame qui sort en insécurité dans son quartier et puis qui va faire une petite mobilisation, petite parce que ça implique une dizaine de personnes, en direction de la mairie, et qui va améliorer l'éclairage public. Et du coup, son sentiment d'insécurité baisse grâce à cette action. Et ça aussi, ça va être fêté. Voilà. Donc, ce qu'on raconte, c'est face à cette idée de culture sacrificielle, en fait, il faut se rappeler que c'est un collectif et il faut se donner des objectifs qui sont atteignables et surtout ne pas oublier de fêter chaque petite victoire parce qu'en fait, c'est bon aussi pour la santé, mais je pense qu'on va en reparler.
Alors, effectivement, vous revenez tous les deux, et d'ailleurs, tu l'as déjà évoqué aussi, Florence, hein, sur la question de la joie, qui fait partie aussi, évidemment, de nos vies militantes, hein, quotidiennement, l'idée de fêter, effectivement, l'idée d'être content aussi de se retrouver, l'idée de pouvoir partager, d'être avec des personnes avec lesquelles on a la même vision du monde d'un certain point de vue. Et j'aurais bien aimé qu'on revienne un petit peu sur cette question, notamment de la joie, et d'ailleurs sur aussi l'aspect guide autour du burn-out militant, puisque donc, dans les éléments qui se discutent aussi aujourd'hui, comme vous le savez, il y a beaucoup de propositions en termes de développement personnel, pas que sur les milieux militants, mais de manière générale, sur des petites recettes qui vont nous permettre d'aller mieux et que certaines considèrent comme étant finalement dépolitisées. Comment est-ce que vous intégrez justement vos deux projets dans cette approche-là ? En quoi justement, comment est-ce que vous situeriez justement par rapport à cette critique qui peut exister sur l'enjeu d'un aspect effectivement un peu psychologisant d'un certain point de vue qui peut exister dans les milieux militants par rapport à ce type de réflexion autour du militantisme et de la vie quotidienne ?
Ouais, il y a plein de questions qui se retournent autour de ça. D'ailleurs, moi, souvent, je me pose plein de questions dans la conférence gesticulée. Je passe beaucoup de temps à définir les problèmes. Et il y a la dernière partie qui parle, entre guillemets, des pistes de joie. Et il y a des fois, je me dis, oh là là, t'en fais trop sur les problèmes. Et puis après, à la fin, les gens viennent me voir en me disant, mais oui, mais bon, c'est facile à dire, ça, ça, ça. Et puis après, nous, la joie, comment on fait pour la trouver ? Alors déjà, moi, je me suis posé la question sur comment on pourrait définir la joie militante. Parce que je pense que selon les collectifs, selon les réalités militantes, elle peut être très différente. Et déjà, ce n'est pas juste le bonheur. Alors si on pourrait dire, Chaque personne a vécu une expérience de joie militante à partir du moment où elle s'est sentie épanouie et elle s'est sentie à sa place dans une organisation. Mais ça peut être la définition au niveau individuel qui est vachement importante, même si du coup, on n'aura pas forcément entre les différentes personnes le même niveau. Voilà. Mais en même temps, la joie, et c'est peut-être ça qui est intéressant, elle s'observe ou elle peut se manifester lorsque un collectif a réussi à atteindre, disons, une dimension un peu transformatrice où les actions qui vont être mises en place, elles vont vraiment produire une mobilisation. On a l'impression que là, tout le monde a participé, toutes les ressources se sont mobilisées et on s'est changé ensemble, quoi. On a créé un peu... Mais en même temps, quand on en parle, il y a un peu une dimension incantatoire. On dit, bon, bah, c'est pas très concret, votre affaire, au final. Et c'est vrai que je pense qu'il y a un peu un écueil qui se coule dans l'affaire, de se retrouver à être dans une espèce d'une course effrénée à la joie militante qu'on n'arriverait peut-être jamais à trouver, et avec... Et d'ailleurs, je le vois dans certains collectifs qui créent des commissions, soins militants, où parfois il y a une espèce de volonté à l'inverse où on va être extrêmement exigeant, où même s'il y a des actions qui sont mises en place pour prévenir des oppressions ou faciliter le vivre ensemble, ça ne sera jamais assez parce que la joie militante, elle doit être plus forte. Et du coup, j'ai l'impression qu'on fait la même chose, mais à l'inverse. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant l'approche que vous avez, Simon et Hélène, parce que... Alors, on va dire, c'est facile, on botte en touche, de dire les solutions, elles sont collectives. Mais en même temps, on n'a pas le choix de se dire que les solutions, elles sont en nous. Et d'ailleurs, il y a des trucs... Moi, quand j'ai lu le bouquin de Simon et Hélène, il y a des fois, je me suis dit, bon, quand même, ce qu'il propose, c'est quand même pas si révolutionnaire que ça. Parce qu'à un moment donné, Simon, il dit... Enfin, je ne sais plus si c'est pareil, vous parlez de faire, par exemple, des sondages de disponibilité de date pour qu'on trouve une bonne date pour se réunir. Bon, alors là, je dis, bon, bah, d'accord. Alors franchement, si j'ai pas besoin d'acheter un bouquin pour comprendre ça. Et en même temps, je me dis, bah, pourquoi pas aussi se rendre compte que dans nos collectifs, où en effet, parfois, on trouve des violences et trucs comme ça, on fait aussi au quotidien des choses qui fonctionnent. Et bah, pour certains collectifs, ça peut avoir du sens. Et donc, c'est aussi la pratique qui est la nôtre, qui est la culture de l'éducation populaire et politique, qui est la culture de la construction ensemble par la pratique des choses qui changent, de la solidarité, de l'écoute, de l'expérimentation, de se dire que bah, la solution, de la même façon que le grand soir de la révolution, il ne va pas arriver du jour au lendemain, et ben, la solution du soin militant non plus, mais on l'en fait aussi beaucoup. Et ce qui va marcher pour un collectif va peut-être pas marcher pour un autre. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant de se le dire. Et après, je voudrais juste revenir sur ce que tu as dit et qui me semble aussi vachement important sur pourquoi il faut qu'on se préoccupe collectivement de ce sujet-là et pourquoi ce n'est pas juste un sujet de bourgeoise babacool qui fait du yoga et qui a envie d'en faire aussi avec ses camarades militants. Parce que pour beaucoup de personnes, d'ailleurs, quand on parle de soins militants, les gens s'imaginent qu'on va se faire des massages ou qu'on va faire des séances de méditation. Ça peut, mais ce n'est pas obligé. Ça peut être plein de choses différentes. Et en fait, je me dis... Petit à petit, on peut plus se permettre le luxe de se dire, de toute façon, les gens qui sont pas contents, ils ont qu'à partir, on va en retrouver d'autres. C'est un peu ce que pratiquent d'ailleurs des mouvements de masse, où ils se disent, bon, bah, c'est pas grave, telle militante, ils ont passé 10 ans de leur vie à militer, bon, bah, écoute, on a un problème avec eux, qu'elle virait, on va trouver un autre. On peut plus se permettre ça. Et en fait, la question des liens qu'on construit entre militants, prend soin de nos militants et des militantes, ça veut dire aussi que petit à petit, où on sait que dans nos luttes, elles vont être de plus en plus difficiles, et on va se confronter aussi à des camarades qui vont se retrouver parfois dans des situations extrêmement difficiles du style, se retrouver interrogé par la police et ne pas délationner les camarades et donc prendre des risques physique, visible, pour défendre la cause, et ben, si cette personne-là, à ce moment-là, elle n'est pas 100% déterminée à se dire qu'elle va défendre les gens parce qu'elle sait que derrière, tu as tous les collectifs qui est là à mobiliser et qui ne va pas le lâcher et qu'indépendamment de ce qu'il fait, elle sera là. Et ben, c'est aussi ça les questions qu'on doit se poser. Et donc oui, c'est des questions collectives parce que prendre soin de nos militants, prendre soin de nos liens, c'est s'assurer qu'on va avoir une structure forte et solide qui va réussir à affronter les grosses difficultés qu'on a. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les mouvements qui font des actions directes, j'en ai discuté récemment, d'ailleurs, c'était une discussion que j'avais avec quelqu'un des soulèvements de la terre. Moi, j'ai des expériences en Amérique latine avec le mouvement des sans terres, par exemple, mais qui sont des mouvements qui ont cette habitude de vivre des expériences très compliquées. Et d'ailleurs, peut-être que dans les ZAD, j'ai pas assez de proximité, mais où parfois on affronte des problèmes. Alors, c'est pas que justement, comme je disais tout à l'heure, le bon burn-out, mais ça veut dire aussi prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que telle personne à cet endroit, elle va être présente. Et elle ne va pas lâcher et on va être là pour elle. Et je trouve que du coup, c'est surtout pas une question de petit bourgeois individualiste, mais c'est une vraie question de solidarité collective. Et c'est peut-être ça qui va donner la force à nos mouvements pour passer le moment qui vient, quoi. Donc, je fais aussi un appel à toutes les organisations qui se disent, voilà, questionnez-vous, faites l'effort de vous interroger sur comment ça se passe. Ça ne veut pas dire se flageller en disant tout ce qu'on fait de mal, mais en tout cas, se donner les moyens d'y penser et d'y réfléchir avant que les choses dégénèrent et deviennent plus compliquées. Et peut-être une dernière chose aussi que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que il faut arrêter de croire que le militantisme, c'est un truc de rationnel. Parce que s'il y a un truc où on est vraiment traversé par les émotions, et tu l'as dit à un moment, c'est déjà l'espoir. Enfin, je veux dire, tout l'espoir qu'on met dans la lutte, dans notre idéal, c'est quand même quelque chose qui est fondamentalement traversé par les émotions. On a des rêves, on a des peurs, et la peur de ne pas y arriver, la peur de rater. Et donc, prenons aussi en compte le fait que nos luttes sont des choses qui sont éminemment politiques, et dans la capacité de se dire que la place des émotions dans nos luttes, elle est centrale. Et donc, comment les gérer ? À part un impensé où on dit non, moi c'est bon, je suis très au fait avec mes émotions. Et ben voilà, prenons cet effort-là de le dire. Et je pense qu'on trouvera des choses incroyables dans nos luttes qu'on ne sait pas encore ou qu'on pourra donner plus de force.
Oui, tout à fait. Alors cette question d'ailleurs des émotions, effectivement, c'était déjà, quand je parlais tout à l'heure des affects, c'était un des enjeux hein, justement des années 1970, même la question du vécu, comment on envisageait ces questions en interne hein, des organisations. Et par ailleurs, voilà, ça fait partie aussi de certains textes fondateurs. Moi, sur la question de la joie, je reviens très souvent sur ce texte de Simone Veil en 1936, en fait, hein, ce moment où, en fait, on s'arrête. Quand on s'arrête ensemble, quand on est impliqué dans un mouvement social ensemble et qu'on, justement, décide collectivement de décider de ce qu'on va faire de nos journées. Pour moi, c'est un moment très puissant et en fait qui procure énormément de joie. C'est-à-dire qu'on interrompt finalement d'un certain point de vue le cours du temps où on subit un quotidien de travail, où on subit tout un tas d'injonctions et on s'engage dans un mouvement social où on se dit allez, voilà, maintenant je vais construire cette lutte-là et finalement, voilà, l'emploi du temps, on décide véritablement individuellement et collectivement des choix qu'on fait. Et je pense que ça, c'est aussi c'est quelque chose de très important, y compris le rapport au temps différent que ça construit. Alors après, ça ne veut pas dire qu'en interne de ces mouvements sociaux, il n'y a pas de nouveau la reproduction de tout un tas d'enjeux, mais je pense que voilà, ça, c'est des moments... il me semble très, très joyeux. Et l'autre point que ça soulève, et du coup, je vais après revenir vers toi, Simon, c'est évidemment cet enjeu de on est en train de se regarder le nombril, l'enjeu, c'est vraiment d'agir vers l'extérieur. Et ce que je trouve intéressant dans vos deux approches, en fait, c'est que vous tenez à la fois le bout de réfléchir sur nos pratiques, avec l'enjeu de se tourner vers l'extérieur, finalement, pour être plus fort et plus forte. C'est justement précisément ce que tu disais, Florence, à l'instant, c'est-à-dire éviter le dégoût, éviter la désespérance, éviter le mal-être, la tristesse le fait que, on s'est engagé à corps perdu et du jour au lendemain, on déteste tout le monde, on n'en peut plus et on ne fera plus jamais rien de sa vie. Enfin, je ne sais pas, moi, quelque chose que je dis très souvent aussi... Dans toutes sortes de formations militantes, c'est on va militer toute notre vie. Alors, comment est-ce qu'on fait pour militer toute notre vie, en fait ? Donc, voilà. Alors, peut-être qu'avant ma mort, il y aura eu la révolution. Mais précisément, ce qu'on est en train de dire, c'est que, bon, en tous les cas, c'est quelque chose qui se construit. Et du coup, voilà, je pense que la question, elle est aussi là. C'est-à-dire... chaque militant, chaque militante est absolument justement essentiel, d'autant plus dans l'urgence de la période dans laquelle on se situe aujourd'hui, où effectivement on s'en prend plein la figure en termes de répression, mais aussi d'offensives généralisées de l'extrême droite partout sur les réseaux sociaux, où il y a tout un tas de repères qui sont susceptibles de voler en éclats, puisque voilà, la puissance de l'extrême droite, c'est de plus en plus forte en réalité. Et donc justement, comment dans cette configuration-là, on fait pour militer toute notre vie. Et moi, j'ai l'impression que c'est un peu à ça que vous répondez. C'est-à-dire, c'est pas « je regarde mon nombril, Et du coup, je passe mon temps à discuter que de mes pratiques en interne, d'autant plus qu'un autre argument, pour être aussi impliqué dans tout un tas de cadres militants, en définitive, on en discute beaucoup, mais on en discute après des merdes qui ont eu lieu. Et donc finalement, est-ce qu'on ne gagnerait pas plus de temps à repenser les pratiques pour construire des cadres justement qui sont cohérents avec, avec nos orientations? Alors, est-ce que tu peux revenir du coup, Simon, un petit peu sur toi, comment t'envisages cette question-là, hein, et qu'est-ce que vous proposez aussi de manière un peu plus concrète dans votre livre?
Oui, alors bah déjà, moi je partage tout ce que t'as dit. Donc ça, c'est vrai que quand on a fait cette enquête, par exemple, on a rencontré Frédéric Amiel, qui est membre du syndicat ASSO. Hein, donc c'est un syndicat qui défend les salariés du monde du travail associatif. Et du coup, lui, son constat, c'était, donc il travaille dans une ONG écolo. Et du coup, lui, son constat, c'est, il dit, c'est quand même incroyable. Hein, on a des salariés, puis aussi des militants qui arrivent, et puis en fait, il reste peu de temps parce que on les crame les uns après les autres. Et c'est vrai que quand on a fait notre enquête, pareil, un autre mouvement écolo qui était Extinction Rebellion, pareil, il disait, je suis à fond, et après je te passe le relais parce que moi j'en peux plus. Et en fait, ce qu'on découvre en allant voir ces mouvements, c'est que ce turnover militant, en fait, il est intégré dans les organisations, et qu'en fait on crame les gens les uns après les autres, et c'est comme ça que tiennent les organisations. Bon, quand même, c'est dommage, hein, comme tu l'as dit, on a besoin de tout le monde pour gagner nos différentes luttes tous ensemble. Donc du coup, voilà, essayons d'être plus nombreux, mettons en place une organisation qui prenne soin de tout le monde, juste pour éviter que les gens partent ou s'épuisent. Donc ça, c'est évidemment un enjeu, et c'est un enjeu important. Il ne faut pas le repousser à plus tard, hein. Il faut s'en occuper maintenant, parce que si on, en fait, après on a des problèmes, et ces problèmes sont plus importants, et finalement ils nous prennent plus de temps en plus. Voilà, même juste d'un point de vue d'efficacité et de performance, hein, il faut s'en occuper. Alors, on a dit plein de choses, et puis, du coup, juste pour revenir sur la joie ou la bonne ambiance et tout. Bon, en fait, bon, ok, c'est pas une injonction, mais juste si on regarde les travaux, notamment celui d'Émilie Legrand et de Fanny Darbus. Bon, elles travaillent sur le monde du travail, elles s'intéressent aux coiffeuses, aux BTP et tout. Et c'est hyper intéressant leur livre, parce que ce qu'elles montrent, c'est que donc c'est des métiers qui sont hyper durs, sauf que finalement, les gens s'y sentent pas si mal que ça. Et pourquoi ? Parce qu'il y a des pratiques de bonne ambiance. Voilà. C'est-à-dire que, on rigole, on boit des verres, on fait la fête ensemble, et ça permet de tenir. Et en fait, c'est vrai aussi pour le monde militant. C'est-à-dire que faire la fête, ou prendre le temps de rigoler, ou d'utiliser l'humour, ça permet de dédramatiser des situations qui sont violentes, et ça permet de tenir. Donc en fait, c'est pas juste bien de faire la fête, c'est aussi important pour la santé, ça fait vraiment du bien à la santé des gens. Hein. En fait, en gros, face à une situation absurde, on a le choix entre en rire et dédramatiser, ou bien juste le subir et puis s'écrouler, parce qu'il n'y a que ça qu'il y a à faire. Donc du coup, c'est pour ça que c'est important de faire la fête. Donc dans le livre, on donne une foultitude d'exemples de culture militante. C'est pas un livre de consultant, on n'a pas la solution malheureusement pour chaque collectif. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de s'engager sans s'épuiser? Donc là, tu as parlé des sondages pour trouver une date qui convient à tout le monde. Et oui, c'était un militant du Parti communiste qui dit comment en fait je fais pour associer tout le monde et puis éviter que les gens se désengagent et puis que voilà, ils se sentent exclus. Et du coup, lui, c'était sa solution. C'était déjà je fais un sondage. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question, ça a dit « Ah, mais c'est peut-être un peu évident, tout ça et tout. » Et en fait, moi, dans mes pratiques militantes, ou même dans celles que j'ai pu observer, je me rends compte que des choses qui me semblent évidentes, comme faire un ordre du jour, avoir quelqu'un qui préside une réunion et partage la parole équitablement, en fait, c'est des choses qui sont pas évidentes pour tout le monde. Et du coup, ça nous semblait important d'en reparler et de les diffuser. Donc, il y a des choses un peu simples comme ça, puis il y a des choses... plus complexe, plus différente. Ensuite, je voulais réagir à quelque chose que tu disais, c'est est-ce que prendre soin de nos luttes, c'est un truc de bobo ? Non, et clairement, et ça c'est, sauf si le mouvement ouvrier, c'est des bobos, quoi. Et en gros, quand on a regardé les pratiques de prendre soin, en fait, on est allé chercher aussi dans l'histoire, qu'est-ce qui existe déjà, parce que, ok, on parle aujourd'hui d'épuisement militant, mais ça existe depuis très longtemps, hein. Il y a des historiens là, qui sont allés voir du côté de la Révolution française et qui montrent que déjà, en fait, il y a des témoignages de gens qui expliquent qu'ils s'épuisent dans les mobilisations. En 1936 aussi, on en a, au moment du Front populaire, on a d'autres témoignages. Bref, donc ça existe depuis longtemps, et évidemment, depuis longtemps, en fait, il y a des pratiques, notamment dans le mouvement syndical. Et les caisses de grève, par exemple, hein, qui existent depuis plus de 100 ans, en fait, c'est du prendre soin. C'est-à-dire qu'il y a des camarades qui s'arrêtent de travailler, qui perdent leur salaire, et donc ils sont face à un stress énorme. C'est-à-dire que comment on fait pour nourrir notre famille, hein? Du coup, pour éviter qu'ils reprennent le travail et puis du coup qu'ils arrêtent leur combat, du coup, on a mis en place ces caisses de grève. Pour nous, c'est une pratique de prendre soin qui est importante et qui se décline d'autres manières aujourd'hui. Les caisses de grève, c'est plus dans le monde syndical, c'est aussi dans les mouvements au moment des Gilets jaunes, par exemple. On a vu apparaître des caisses de solidarité. Il y a aussi des mouvements qui vont faire de la récup de nourriture, de la récup d'habits, voilà, pour soutenir les militants les plus précaires et pour qu'ils puissent continuer à militer. Dans les expériences plus anciennes, hein, qui ne sont pas des trucs de bobos, il y a aussi les mouvements de service d'ordre. Et ça, pareil, on les a vus apparaître du coup au début du 19e siècle. C'était la SFIO, qui, donc, l'ancêtre du Parti Socialiste, qui a mis ça en place pour la première fois. Et pareil, c'est, en fait, on crée un groupe, un service d'ordre, pour se protéger des attaques de l'extrême droite et de la police. Ça, c'est aussi du prendre soin. Et clairement, c'est pas un truc de bobo, c'est même un truc de bonhomme, même s'il y a de plus en plus de femmes aussi dans les services d'ordre. Je fais un petit clin d'œil, évidemment, je fais des blagues. Il y en a d'autres, des pratiques. On a vu les street medics, hein, dans les manifs, qui, les manifs, malheureusement, hein, depuis la loi travail, elles se passent pas toujours bien. Et ça se passe bien même depuis plus longtemps que ça, parce que déjà avant, il y avait des fois des violences policières dans les manifs, et du coup, on a vu apparaître donc, ces street medics, donc, qui sont des professionnels de santé ou pas, hein, de santé, même parfois de la santé mentale, qui se baladent, hein, dans les manifs avec leur sac à dos, avec du sérum fille, des bandages, et même parfois un peu de nourriture pour réconforter aussi les gens, hein, qui se sont fait gazer ou taper dessus par la police, quelque chose de chaud, hein, pour se réconforter après des violences. Donc dans le livre, on partage toute cette culture militante qui est souvent collective, hein, comment on fait pour s'organiser sans domination, les réunions non mixtes, ou comment on fait pour partager la parole équitablement entre hommes et femmes. Il y a des exemples comme ça. Et après aussi, il y a des, on s'est permis de donner des conseils un peu plus individuels. On n'a pas pu échapper à ça, à ces idées. Mais par exemple, on cite un militant du Parti Socialiste qui a fait un burn-out. Et en gros, lui, il s'est tellement engagé qu'il a embarqué, on se croirait dans le livre de Julie Pagis, il a embarqué toute sa famille, ses amis. Et en fait, quand il fait un burn-out au Parti Socialiste, il n'a plus personne après pour en parler. Parce que en fait, tout le monde est au parti et finalement, personne n'a envie de prendre le temps de discuter avec ce militant qui s'est cramé. Donc voilà, du coup, nous, le petit conseil qu'on dit, il ne faut peut-être pas mettre tous ses œufs dans le même panier, il faut avoir des espaces pour se ressourcer. Heureusement, lui, il est allé voir un professionnel de la santé mentale, un psychologue, et ça l'a aidé à se reconstruire. Voilà, donc il y a des solutions. Mais encore une fois, donc on donne ces exemples-là qui sont individuels et peut-être un peu psychologisants, je ne sais pas, mais après, on rappelle, en fait, une fois qu'on a conscience de ça, que peut faire le collectif? Et là, il y a des collectifs qui mettent évidemment des choses en place. Par exemple, aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux et du numérique, on reçoit des messages WhatsApp tout le temps ou Signal. Par exemple, dans le collectif Nous Toutes, ce qu'elles ont choisi de faire, c'est après 19h, on arrête de s'envoyer des messages. Et pareil, on ne s'envoie plus de messages avant 9h du matin. On respecte aussi la vie privée des uns et des autres. Parce qu'en fait, si on est tout le temps sur le pont, à un moment, l'intensité de l'engagement fait qu'on craque. On se dit, à certaines heures, on fait une pause. Il y a d'autres collectifs, là, comme la Psychoteam, qui est un collectif qui, justement, vient apporter de l'aide psychologique sur les mobilisations. Parce que j'ai discuté avec une femme, Hélène, ce qu'elle raconte, c'est qu'ils font aussi des vacances numériques. C'est-à-dire que, on peut sortir aussi des listes pendant les vacances, prendre 2 semaines de pause. Donc on a des exemples qui peuvent sembler un peu triviaux, mais même si c'est des choses simples et qui peuvent sembler évidentes, elles sont quand même cruciales pour prendre soin les uns des autres, parce qu'on a tous besoin aussi de faire des pauses de notre engagement pour avoir encore du jus, hein, et puis pouvoir tenir dans la durée, hein, pour pouvoir militer toute sa vie comme tu le souhaites.
Oui, ça me fait penser à un élément sur lequel tu reviens dans ta conférence, Florence, qui est Sortir du « il faut » et se demander « est-ce qu'on peut ?»
Être capable.
Être capable.
C'est pas moi qui dis, c'est Spinoza.
Et donc, effectivement, reposer un petit peu la question aussi autrement. Est-ce qu'on est capable de, plutôt que de, d'être dans des injonctions, il faudrait. C'est, d'ailleurs, c'est pas « il faudrait », c'est « il faut
». Et puis maintenant.
C'est hyper important de mettre en face ses objectifs et ses moyens. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est très courant hein, dans le monde militant. Hein. Souvent, on vote des listes de revendications pas possibles, on se fixe des objectifs pas possibles. Et là, dans les petites pratiques, on allait voir Action Justice Climat, qui est en gros une association écologiste parisienne. Et eux, ce qu'ils font dans leurs réunions, c'est qu'ils vont fixer des objectifs. Donc, ils votent sur des projets, voilà. Sauf qu'ils votent jamais des projets s'il y a personne qui dit qui est partant pour le faire. Hein. Donc en gros, parce que ce qu'ils se sont aperçus, c'est que si on se fixe des projets et qu'il n'y a personne qui se mobilise dessus, ça va retomber toujours sur les mêmes, sur les responsables, et qui vont finir par se cramer. Donc ils ont peut-être une démarche un peu spinoziste.
Moi, je voudrais peut-être juste, avant de terminer, revenir sur un point dont on n'a pas trop parlé, sur les inégalités sociales dans le monde militant. Parce que quand même, quand on regarde les statistiques du monde militant, on voit qu'il y a quand même une énorme majorité de personnes qui sont issues des classes moyennes, qui représentent un peu les classes dominantes. Alors, il y a beaucoup de femmes aussi, mais elles n'ont pas les mêmes tâches. Beaucoup de personnes blanches, valides, cis. Et puis, des personnes aussi qui ont des forts capital historique, familial, militant. Donc, ça veut dire que du coup, ils mettent en place tout de suite des choses qu'on leur a transmises. Et du coup, je pense que toutes ces personnes là n'ont pas forcément les mêmes, le même rapport à la résistance. Et souvent, les gens qui disent « bah non, il n'y a pas de problème », je ne vois pas où est le problème », c'est souvent ceux qui ont plus de ressources à côté pour éventuellement combler les problèmes affectifs, les problèmes de confort, les angoisses diverses et variées. Et je pense que, voilà, à un moment donné, regarder en face ces inégalités-là, c'est pas pour rien, comme tu disais, Simon, que beaucoup d'actions du type caisse de grève, elles sont venues de ceux qui, à un moment donné, ils pouvaient pas, ils n'avaient plus d'argent, donc comment on fait ? Donc quand tu es confronté à la réalité, et d'ailleurs, beaucoup de pratiques de soins militants se retrouvent aussi dans des collectifs de femmes isolées, dans des luttes hyper précaires dans les banlieues, ou dans des personnes qui subissent aussi des milliards de dominations. D'ailleurs, ça me donne l'occasion de parler de l'expérience aussi des groupes hyper minorisés qui, lorsqu'ils subissent des conflits, en fait, ils ne peuvent pas se permettre de... Et même des violences graves du style viol. C'est Elsa Deck Marceau qui en parle dans son bouquin « Faire justice », qui parle justement de comment les collectifs queer font face à... Bon, alors, ou ont des difficultés à faire face à des violences parfois qui sont faites et comment, en fait, dans ce genre de situation-là, on ne peut pas se permettre de dénoncer à la police ou d'exclure la personne parce que ça voudrait dire lui assurer une mort sociale assurée, c'est-à-dire ça veut dire sortir une personne, fût-elle être agresseuse peut-être, mais de la condamner à subir des violences encore plus graves si elle sortirait de ce collectif de pairs. Et donc, c'est aussi important de se dire quels sont les privilèges que chacun et chacune a et lutter toute sa vie, ça veut dire qu'on n'a pas forcément les mêmes ressources. Et donc si on collectivise aussi ces ressources du soin, qui plutôt être des ressources privées ou bien nos privilèges peuvent du coup être mis en commun, c'est aussi ça qui est important pour justement lutter toute sa vie, quoi. Et n'oublions pas ça. Et c'est vrai que parfois dans certains collectifs, il y en a qui oublient un petit peu de passer par cette petite case de l'auto-analyse des privilèges. Et c'est pas facile, mais je pense que collectivement, ça peut se faire avec affection, soin, sans forcément devoir se taper dessus les uns les autres à la fin.
Oui, encore une fois, l'analyse des privilèges, ce n'est pas non plus un enjeu individuel, c'est vraiment à insérer dans une approche en termes de rapports sociaux. Et il ne s'agit pas non plus de s'auto-flageller, mais bien d'avoir en tête la manière dont on se situe et effectivement les ressources dont on dispose qui ne sont pas effectivement partagées par toutes et tous. Donc, merci à tous les deux pour cet échange. Donc, nous avons cité un certain nombre de références et on va essayer de mettre une petite biblio en lien avec le podcast. Et bien sûr, on vous invite à, dès que possible, aller voir donc cette conférence gesticulée de Florence hein, qui, je pense, passera donc peut-être dans vos villes, qui s'intitule donc « Je t'aime, camarade » ou que vous pouvez aussi d'ailleurs faire venir dans vos villes et ou dans les cadres militants dans lesquels vous êtes impliqués. À bientôt.
Spectre.